France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Buongiorno, benvenuti all'Osteria Sale e Tabacchi di Mandello dell'Ario sul lago di Como. Oggi vi proponiamo dei piatti con il nostro pesce di lago. Abbiamo un antipasto misto con insalatina di lavarello affumicato, agone in carpione in salsa verde, crostino di patè di pesce misto e la polenta col missoltino. Come primo piatto abbiamo dei tagliolini di pasta fresca ai missoltini, bottarga di lavarello, pomodorini confì e maggiorana. Nei secondi piatti vi proponiamo oggi dei filetti di lavarello al burro e salvia con i contorni di polenta, patate e caponatina di melanzane.
Ciao a tutti, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Imaginez des poissons du lac merveilleusement cuits avec le fameux accord burro e salvia, le beurre et la sauge. C'est tout l'esprit de la cuisine du lac de Côme qui est résumé sur la carte d'une osteria qu'on a adorée, l'osteria Sali e Tabacchi, une osteria comme on les aime. On a eu un très beau coup de cœur pour cette osteria située à Maggiana, un hameau perché au-dessus de la rive orientale du lac de Côme. Vous connaissez, amis auditeurs et auditrices, notre passion dévorante pour l'Italie, mais il y a une région passionnante que nous n'avons jamais dégustée. C'est ce territoire du nord de la Botte, au-dessus de Milan, que l'on appelle la région des lacs. Poissons du lac, mais aussi fromage de montagne et pizzoccheri, les fameuses pâtes au sarrasin, on va rayonner entre le lac de Côme et la vallée alpine de la Valtellina avec notre spécialiste de la cucina italiana, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Comment ça va?
Très bien et très heureuse d'être là pour parler justement de cette cuisine d'une région qu'on connaît surtout pour ses jolies demeures colorées.
Et on va voir qu'il y a une cuisine tout à fait charismatique.
Absolument.
On l'a expérimenté lors de ce très beau séjour. Il va y avoir des reportages dans cette émission. Il est également du voyage chez notre professeur de littérature, très porté, on le sait, sur l'Italie. Stéphane Solier, bonjour.
Buongiorno.
Comment ça va?
Ça va très bien. Je ne me remets pas de notre voyage dans la région des lacs, franchement.
Et d'ailleurs, cette région des lacs, on va le voir, a inspiré bon nombre d'auteurs.
Exactement.
Italien essentiellement.
Oui.
Voire un peu français.
Même français.
Il y a du vin et du très bon dans cette partie de la Botte, même si on va s'écarter un peu avec lui du lac de Côme. C'est Jérôme Gagnès, bonjour.
Mais oui, il y a du très bon vin, bonjour à tous, et on va se rapprocher du Lago di Garda.
Très bien, lac de Garde.
Tout à fait.
Notre mangeur masqué est très connu pour son amour viscéral du Japon. Mais il a depuis plusieurs décennies contribué aussi à nous faire aimer l'Italie et tous ses plaisirs de bouche. C'est François Simon, bonjour.
Bonjour François Régis.
Ça va François?
Ouais, très bien, trop content d'être là.
Quand on parle d'Italie, j'ai l'impression que ça va.
Oh, mes yeux pleurent, ils sont contents, ils sont radieux. C'est tout mélangé.
Au menu de votre...
Au menu, un peu plus de simplicité s'il vous plaît.
À la console, Laurent Thomas, Jérôme Ragano, Fabrice Rivaud, pour retrouver tous les contenus de notre émission, nos recettes, nos adresses, nos chroniques, nos podcasts. Rendez-vous sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Ce bras du lac de Côme, qui se dirige vers le midi entre deux chaînes non interrompues de montagnes, en formant autant de petits golfes et de petites baies que ces montagnes forment elles-mêmes de sinuosités, se resserre comme tout à coup et prend le cours et l'apparence d'un fleuve entre un promontoire à droite et une large côte à l'autre bord.
Merci Stéphane Solier pour cette belle mise en ambiance. Visiblement, la mythologie du lac de Côme est entretenue dans un roman qui est très populaire en Italie et dont vous venez de nous lire un extrait.
Oui, c'est un extrait du début de L'Incipit, du très célèbre roman d'Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, Les Fiancés, écrit en 1827, qui est le roman national en Italie, qui a vraiment accompagné toute l'unification d'Italie et que les élèves italiens, encore aujourd'hui, étudient toutes les années de leur scolarité.
Vous nous rappelez ce qu'est un incipit pour ceux qui ne le sauraient pas ?
Un incipit, c'est la page d'ouverture d'un roman et qui demande de la part d'un écrivain généralement un talent hors norme parce qu'il faut accrocher l'intérêt du lecteur tout de suite. Cet incipit-là, pour les Italiens, équivaut à notre incipit de L'étranger de Camus, par exemple. Hein, aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est vraiment l'équivalent pour les Italiens de cet incipit-là.
Les fiancés d'Alessandro Manzoni, vous l'avez lu, Alessandra Pierini ?
Bien sûr. Mais je ne suis pas la seule. Tous les Italiens connaissent ce roman et même ceux qui n'ont pas lu le livre connaissent l'incipit. Donc, qui fait en italien quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti tutto a seni e a golfi. Je ne vais pas plus loin parce que c'est une des phrases les plus longues d'incipit qu'on retrouve dans la littérature moderne italienne.
Et qui est très connue dans ce roman national, en quelque sorte.
Tout à fait,
hein.
Absolument.
Donc ça veut dire que tous les Italiens, grands et petits, situent aussi sur une carte de l'Italie le lac de Côme ou pas ?
Oui, les Italiens connaissent bien, quand même.
Parce qu'alors, nous autres Français, même si on adore l'Italie, parfois on peut se perdre un peu dans les méandres de sa géographie. Est-ce que vous pouvez, Alessandra Pierini, nous resituer ces fameux lacs italiens sur une carte de la botte ?
Les grands lacs italiens, tous d'origine glaciaire, se trouvent au pied des Alpes, dans la partie nord de la botte. Mm-hmm. Il y a environ un millier de lacs, plus gros et plus petits.
D'accord.
Mais il y en a une dizaine vraiment des plus connus, dont quatre qu'on connaît vraiment davantage, qui sont, en partant de l'ouest, surtout le lac Majeur, qui est à cheval entre le Piémont, la Lombardie, une petite partie de la Suisse. Puis dans le centre, dans la Lombardie, on a le lac de Côme, donc, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui.
C'est quand même là où se sont concentrées nos aventures gourmandes.
Nos aventures, on peut le dire. Et puis le plus petit lac d'Iseo et bien sûr le lac de Garde, qui est aussi le plus grand, sur une superficie de 370 km² et qui se trouve encore à cheval entre trois régions, là, qui est la Lombardie, la Vénétie et un petit peu du Trentin au Adige.
Et tout cela est situé à quelques dizaines de kilomètres de Milan, la ville du Nord.
On est arrivé d'ailleurs à Milan, c'est à 80 kilomètres au nord du centre-ville. On a le sud du lac de Côme, qui a une particularité, quand on le regarde, il a une forme d'un Y inversé. Il y a le bras occidental qui est la partie donc de la province de Côme et le bras oriental dans la province de Lecco et puis au centre ces deux bras se réunissent et on retrouve la magnifique ville de Bellagio. Et quand on est à Bellagio, on peut voir d'un côté de l'autre les deux rives du lac et c'est un endroit absolument somptueux, à couper le souffle.
Superbe, en fait. Vraiment, c'est superbe. Des paysages à couper le souffle, comme vous le dites, avec cette géographie très chahutée, et donc une diversité topographique, hein. Il y a du relief, absolument. Il y a de la montagne, puisque ce sont, vous l'avez dit, des lacs d'origine glaciaire. Mais il y a également une grande diversité de climat, ce qui explique d'ailleurs que cette cuisine qui nous intéresse est extrêmement diversifiée. De temps en temps, on ressent au bord du lac de Côme, surtout au début de l'automne, l'été indien, une espèce de douceur méditerranéenne.
Absolument.
On se dit, tiens, on aimerait bien verser un peu d'huile d'olive sur du pain.
Et on peut le faire.
Et puis quand on monte en montagne, alors là, on est carrément dans une autre ambiance. C'est le règne du beurre, des matières grasses.
Oui, les forêts,
des produits alpins.
Carrément, les châtaigniers. Cette région vit entre la montagne et le lac. Les villages au bord du lac vivent surtout de tourisme et un petit peu de pêche. Et dès qu'on monte, mais c'est vraiment à quelques kilomètres, on est tout de suite en altitude, on est saisi en fait par les paysages de montagne et tout ce qui se mange plutôt, une cuisine un peu rassasiante et très robuste.
Ouais,
et un petit peu calorique
c'est
aussi.
C'est ce qu'on va voir, et un petit peu calorique en effet, mais c'est vrai que c'est un peu deux salles, deux ambiances et c'est ça qui est passionnant. Vous évoquez le lac de Côme et ses ressources. On peut considérer que le lago di Como est un vivier, un garde-manger qui a d'ailleurs contribué beaucoup à façonner la cuisine locale. C'est aussi d'ailleurs une filière économique. Il y a encore des pêcheurs professionnels sur le lac de Côme. 30 pêcheurs professionnels. Sinon 75 licences de pêche.
Licences de pêche en général et dans tout le lac de Côme.
Je vous propose justement d'aller voir comment ça se passe. À Lecco, une commune sur la rive orientale du lac de Côme. Alors là, il faut imaginer l'ambiance incroyable avec une maison basse au bord de l'eau, reconnaissable à ses filets suspendus. Il y a des barques amarrées, l'odeur du poisson séché. C'est la maison de Cecco il Pescatore, un pêcheur qu'on a passé des décennies sur ce lac de Como.
Io mi chiamo Ghislanzoni Francesco.
Je m'appelle Ghislanzoni Francesco, di Cecco.
Qui siamo a Pescarenico, una piccola frazione di Lecco.
Nous sommes à Pescarenico, c'est un tout petit quartier de Lecco, mais c'était un village de pêcheurs à l'origine et nous ne sommes plus que deux pêcheurs.
Il y a votre bateau ici?
Il
y en a trois.
Sono télécommandate.
En fait, ils sont télécommandés. Je vous montre. On n'a besoin que d'un seul conducteur. On a un système de bras articulés pour déposer les filets dans le lac et on n'a pas besoin d'être plusieurs sur le bateau. Quand arrivent les premières neiges, il y a toujours du vent ici. Vous entendez?
Quel âge vous avez?
76.
76 ans.
Mais vous continuez à pêcher à 76 ans?
Si. Si, continuons à pêcher.
Et vous pêchez tous les jours?
Tous les jours, si.
De 3h du matin jusqu'à 8h du matin, tous les jours.
Qu'est-ce que vous prenez comme poisson?
Nous pêchons les corégones, les alouses feintes,
persico,
les perches,
persico, luci, tinque,
les tanches, les brochets.
Cambiamento climatico, anche quando piove molto.
Changement climatique, ça suppose aussi parfois des précipitations dans grandes quantités. Le problème, c'est qu'on a une digue un peu plus loin. Et quand l'eau monte ici, évidemment, ils ouvrent la digue. Et ben, le poisson s'en va quand ils ouvrent toutes ces digues. Là, vous avez le hangar où on stocke.
Toutes les reti appese, frigo,
là, c'est le frigo où on a les poissons frais.
Les facciamo essiccare al sole.
Alors, ces poissons, donc, ce sont des alouses.
Anche 10,
on les sale et on les fait sécher à l'air libre pendant une dizaine de jours.
Poi vengono pressate,
et ensuite, on les place sous presse dans ces boîtes en fer.
Comment ça s'appelle cette spécialité?
Chiamiamo misoltino.
On les appelle dans le dialecte les misoltini. Cette recette, en fait, elle naît d'un besoin de conserver les poissons. Évidemment, il n'y avait pas de frigo, donc on les conservait au sel.
Et vous perpétuez cette tradition? Elle est encore très répandue au bord du lac?
Si, tout au lago di Como.
Ici, c'est un restaurant.
C'est la partie restaurant, il y a des filets suspendus. Alors, c'est aussi pour faire joli, mais on les utilise, on les dépend de temps en temps.
Qu'est-ce qu'on mange ici?
Pêche. Carne, niente.
Pas de viande, juste du poisson. Je suis Eric, chef du restaurant d'Aceco, et je vais vous préparer les misoltines.
Adesso prendo e metto il misoltino all'interno della padella, bella rovente.
Donc là, je vais déposer les misoltines dans une poêle sans gras, de façon à ce que le poisson lâche le gras naturel qu'il a. Donc là, je retourne les misoltines, je les fais rissoler, de façon à ce que la chair soit beaucoup plus tendre.
Adesso andiamo a tirare fuori la polenta dal forno, già
scaldata. Donc là je sors la polenta du four, je vais la placer sur le plat.
Des belles tranches de polenta.
Donc voilà, je dépose les misoltini sur la polenta, je les assaisonne, c'est le point final, hein, avec un mélange de vinaigre et d'huile de tournesol 50-50.
Bellissimo, grazie.
Grazie mille a voi. Buon appetito, alla prossima.
Merci. C'est vous là sur la photo?
Oui.
Vous aviez quel âge là? Vous étiez tout jeune?
45.
45 ans à peu près.
35.
Vous avez aimé votre métier?
Mi piace adesso. Prima no, adesso mi piace.
Je ne comprenais pas vraiment le but de mon métier quand j'étais plus jeune, mais là maintenant, je sais.
Vous travaillez également avec votre petit-fils? Il est pêcheur ou il travaille seulement au negozio?
Prima si, hanno fatto un po'.
Avant, ils ont fait aussi un peu pêcheur, mais là maintenant, ils n'ont plus le temps et donc ils s'occupent vraiment de la poissonnerie et du restaurant.
Mais alors, qui va pêcher après vous?
Io non muoio. Io rimango.
Mais je ne vais pas mourir. J'ai fait un pacte avec Dieu. Je reste et je pêche. Si je vais là-haut, je risque d'emmerder pas mal de monde.
Grazie.
Prego.
Grazie.
È colpa del respiro. Fragile come me. Se soffro tanto ma son vivo. È colpa della bocca stupida come me e del tuo corpo che la tocca. dell'istinto agile come me che corre sempre dritto al punto è colpa dell'amore ruvido
Andrea Laszlo de Simone et avec le titre « Quando », pêché par Djoubaka sur la playlist de France Inter. Je dis pêché évidemment parce que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la cuisine du lac de Côme au nord de l'Italie. Nous étions en compagnie de Checo, l'un des plus anciens pêcheurs installés à Lecco, dans ce quartier de pêcheurs dont vous nous rappelez le nom, Alessandra Pierini.
Pescarenico, donc le quartier des pêcheurs.
Étymologiquement,
et c'est là le quartier vraiment où il y avait une grosse concentration vraiment de pêcheurs professionnels.
Et vous nous avez rapporté cette fameuse ressource, ce trésor qui passe pas inaperçu quand on le sort de son... Quand on le sort de son conditionnement, si vous voyez ce que je veux dire.
Ça klaxonne.
Ça a du retour.
Voilà, vache, ça sent, non?
Ça va, François?
Comme dirait l'autre, ça a du
slip. C'est pour adultes, ça. Donc Jérôme...
on y va, ensemble. Hein.
Allez. Cuisson.
Il faut vraiment qu'il fasse froid. Hein.
Alors, on parle des fameux...
Missoltini, qui sont en fait les agoni, quand c'est le poisson frais pêché, qui est donc la lose du lac.
La lose
on appelle
du lac.
Aussi la sardine du lac, parce que ça ressemble
c'est
beaucoup
vrai.
À des grosses sardines.
Avec des flancs argentés.
Et une fois que les agoni, la lose, est transformée, séchée, donc vidée, comme Checo nous racontait dans le reportage, le poisson s'appelle missoltino. Ça vient de missolta. C'est vraiment cette boîte dans laquelle les missoltini sont rangés une fois séchés, qui veut dire, en dialecte lombard, « mettere sotto ». Mettre en dessous, pressé.
Et on voit qu'ils sont pressés, puisque là, ce poisson d'une taille d'environ 22-20 cm est carrément aplati. Il a été séché, toute l'humidité du poisson est partie en quelque sorte. On obtient une chair d'ailleurs assez ferme, très concentrée. Alors, on ne le mange pas tel quel. On a vu dans le reportage qu'on pouvait le faire griller et le déguster avec une polenta.
Oui.
Mais vous nous l'avez préparé autrement, Alessandra.
Je l'ai un tout petit peu réhydraté, en quelque sorte, par la chaleur. La chair très fibreuse, filandreuse, un peu sèche de ce poisson, qui va ressortir un tout petit peu d'huile qui reste encore dans la chair. Et après, je l'ai fait mariner déjà depuis hier, avec un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre de vin blanc, du laurier, du persil. Et le vinaigre permet, en fait, de faire passer aussi le goût assez prononcé, comme si c'était un anchois très très fort.
C'est ça.
Avec un goût plus terrien.
Et moi, je trouve ça très, très, très bon.
On effiloche ces petits morceaux de filet, on les installe. Alors, sur une polenta, ici, c'est sur un petit pain.
Un petit pain de maïs, d'ailleurs, juste pour rappeler la polenta.
Et dans notre, pendant notre voyage, nous avons aussi mangé avec des pâtes fraîches.
Bien sûr.
C'était excellent et filoché
missoltini.
Comme ça.
Missoltini. Et pour ceux qui veulent se frotter à la sensation forte des missoltini, vous nous rappelez, Alessandra, l'adresse de Checo il Pescatore.
C'est bien Piazza Era, numéro 8, à Lecco. Au bord du lac de Côme, et la poissonnerie et la trattoria. On peut déguster sur place donc le poisson pêché par Checo.
Magnifique. Le lac de Côme et sa région sont un terroir riche en céréales. Alors on évoquait justement cette fameuse polenta, puisque c'est un des pays de la polenta. La polenta, c'est surtout le nord de l'Italie. Il y en a en Vénétie aussi, à Venise. Mais on a beaucoup de polenta dans ces régions alpines. J'évoquais ce matin dans la matinale d'Ali Badou et de Marion Lourd une recette de polenta de maïs que nous avons dégustée ensemble, qui se cuisine dans une micro-région que l'on appelle le Haut Lario, une région de montagne. Je l'ai préparée avec Plinio Bossio, c'est le chef de l'Osteria.
Aquila d'oro.
On est à Civano, on part du lac et quelques dizaines de minutes après, on est vraiment dans une ambiance de montagne. Et cette fameuse recette s'appelle quand même la polenta uncia, ça veut dire littéralement...
C'est graisseuse. Hein,
la polenta graisseuse. Ben, on peut quand même raisonnablement dire que le principe de cette recette, c'est de faire frire de la polenta dans un lac de beurre. À la sauge.
Ça reprend un peu l'idée de la purée de Robuchon, qui était moitié pomme de terre, moitié beurre.
Là, je pense qu'il y a plus de beurre que de polenta. Absolument incroyable, mais délicieuse. Et il existe une autre polenta, mais alors celle-ci, on la connaît beaucoup moins ici. Elle n'est pas du tout 100% maïs, Alessandra.
Ah non, effectivement, elle s'appelle polenta taragna, que nous avons d'ailleurs sur le plateau, dans le sachet. Et c'est donc une partie de maïs et une partie de sarrasin, qui est l'autre céréale cultivée surtout dans la Valtellina. Et la polenta taragna donc, a une couleur beaucoup plus foncée. Elle est aussi beaucoup plus goûteuse, un peu granuleuse. Elle est délicieuse, donc mangée avec du fromage qui atténue un petit peu aussi l'amertume du sarrasin, de cette céréale qui est mélangée.
On est moitié-moitié, moitié maïs, moitié sarrasin?
Non, c'est 60% de maïs et environ 40% de sarrasin. Et même si on ne la trouve pas, on peut tout simplement, nous, ici, trouver les deux céréales et faire le mélange pour confectionner une polenta. Moi, je la préfère.
La polenta taragna, taragna. Pourquoi taragna? Notre professeur de lettres italophile, italophage, a certainement la réponse, Stéphane Solier.
La taragna, ça vient de l'ustensile pour préparer cette recette. En fait, le tarai, dans le dialecte lombard, c'est un bâton qui sert à tarar, ça veut dire mélanger, tourner la polenta.
Et comment on dit sarrasin en italien?
Ah, grano saraceno. Le grain, le blé des sarrasins, en fait, mot à mot, hein, même pour le français, hein, l'étymologie. En fait, il y a trois hypothèses pour expliquer le grano saraceno. Il aurait été diffusé en Europe et principalement en Italie par des commerçants sarrasins. L'autre hypothèse, c'est que tous les produits de l'Orient, on les dénommait par un terme géographique de l'Orient. Donc, ici, donc, sarrasin pour les sarrasins, ou alors le grano turco, on a parlé du maïs. En italien, on dit grano turco.
Donc ça, c'est littéralement le blé turc.
Le blé turc. Et l'autre explication, la dernière hypothèse, ce serait la couleur sombre de la graine du sarrasin qui pourrait être comparée au teint des sarrasins, au teint des habitants arabes de la région orientale.
Et la polenta taragna, c'est vraiment une polenta qui a aussi inspiré les auteurs locaux, les auteurs de montagne.
Oui, c'est vraiment, on la retrouve dans tous les écrits depuis le 19e siècle en particulier. Elle fait vraiment partie du patrimoine littéraire de cette région. Notamment, elle est considérée comme le soleil qui réchauffe la table en hiver, hein, chez certains poètes lombards. On a notamment dans la littérature populaire et en dialecte de la Valtellina, hein, des expressions comme la polenta taragna, le repas du montagnard ou l'ami du fromage. On l'a vérifié nous-mêmes directement pendant le voyage.
Beaucoup de fromage dans ces recettes.
Il y a même un proverbe valtellin qui dit « La taragna la fa buona anche l'acqua cattiva ». Ce qui veut dire que la taragna rend même les choses médiocres bonnes. Et on voit vraiment que, même dans la littérature moderne et contemporaine, hein, Oreso del Buono, par exemple, qui dit que c'est un plat qui, plus que tout autre, unit les lombards des montagnes aux lombards des plaines.
Intéressant.
Donc on voit vraiment qu'elle unifie toute cette région avec ses reliefs si différents.
Et le sarrasin, tiens, est aussi au cœur d'une pâte emblématique qui, pour le coup, est connue bien au-delà des frontières de cette région, hein, connue dans toute l'Italie à l'extérieur. Oui. Une pâte emblématique de la Valtellina. La Valtellina étant cette grande vallée alpine qui part du lac de Comin.
Tout à fait, qui est près de la Suisse, dans la province de Sondrio.
Et on parle alors d'une pâte, quel est son nom, Alessandra?
C'est les pizzoccheri.
Ça veut dire quoi, pizzoccheri?
C'est encore le dialecte du coin qui veut dire petit morceau, parce qu'en fait, cette pâte ressemble beaucoup à une tagliatelle, mais beaucoup plus courte. Donc c'est un pezzo, un morceau de tagliatelle.
Alors on est allé dans un endroit incroyable, où on a assisté à la préparation de ces pâtes fraîches au sarrasin, les pizzoccheri, dans une charmante locanda.
La locanda di Via Priula,
à Morbegno. C'est ça. Donc on est dans la Valtellina, et on était en compagnie d'une chef qui s'appelle...
Marinella Foïs.
Elle nous a dit, tiens, je crois que dans votre pays, il y a une actrice qui porte presque le même nom que moi.
Absolument, et d'ailleurs, ils ont les mêmes origines sardes,
c'est
avec
ça.
Marina Foïs.
Elle, c'est Marinella Foïs, la reine des pizzoccheri, elle nous les a fait. C'était vraiment un geste incroyable, et d'ailleurs, je tiens à dire que pour ceux que la fabrication de ces pâtes intéresse, évidemment, on a fait un tuto vidéo disponible sur nos réseaux sociaux et sur franceinter.fr à la page On va déguster. Parce qu'alors, cette pâte fraîche, elle mélange, c'est pas 100% sarrasin quand même ?
Non, parce que le sarrasin n'a pas de gluten. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de manger le sarrasin. C'est quand même 80% de farine de sarrasin et 20% de farine de blé. Et puis 50% d'eau et un tout petit peu de sel.
Évidemment, il n'y a pas d'œuf. Hein ?
Il n'y a pas d'œuf. La pâte, elle est costaud, elle est robuste.
Ah ouais, il faut la travailler.
Il faut y aller, il faut bien la travailler.
Marinella va nous préparer une super recette tout à fait emblématique de la région. Comment on accommode ces pizzoccheri ? On va le vérifier. Vous allez voir qu'il est aussi question de gras, de beurre et de fromage.
Nel frattempo che l'impasto riposa, prepareremo.
Pendant que la pâte repose, je vais préparer les ingrédients.
Taglieremo le patate a dadini molto.
Je mets à bouillir de l'eau et je vais découper les pommes de terre en petits dés.
E li caleremo direttamente nell'acqua.
Et je les plonge directement dans l'eau froide.
Ci prepariamo già anche la verza.
Je vais découper grossièrement en petits morceaux aussi le chou frisé.
La ricetta tradizionale vuole 50 grammi di burro per ogni porzione.
Conseille 50 grammes de beurre par personne pour préparer la sauce.
Non è un piattino dietetico.
C'est pas du tout un plat diététique.
Mettiamo le fettine dell'aglio
Je mets les tranches fines d'ail directement dans le beurre.
Insieme a delle foglie di salvia.
Avec une grosse poignée de feuilles de sauge.
E prepariamo il formaggio.
Et je commence à préparer le fromage.
Abbiamo una parte di parmigiano reggiano.
Parmesan.
Et del formaggio grasso della
et
valle.
Ensuite,
dello
on va mettre un morceau de fromage qu'on appelle gras, un fromage de la vallée du Storico Ribelle.
Ora che tutti i nostri ingredienti sono
Maintenant
pronti,
que tous les ingrédients sont prêts, je vais préparer les véritables pizzoccheri à partir de la pâte que j'ai pétrie.
E col mattarello adesso cominciamo.
Et avec le rouleau, je commence à étaler ma pâte.
Lo spessore sarà
L'épaisseur de la pâte est d'environ 2-3 mm.
Ora taglieremo delle strisce.
Je découpe des bandes d'environ 10 cm de large.
Andremo a tagliare i nostri pizzotti.
Et avec le couteau, je découpe des petites lanières de pâte.
Abbiamo salato l'acqua dove
Maintenant, les pizzoccheri rejoignent les pommes de terre qui sont en train de cuire dans l'eau bouillante et salée.
Siamo a circa 8 minuti
On est à 8 minutes de cuisson des pizzoccheri et maintenant j'ajoute donc le chou frisé que j'avais découpé
insieme,
de façon que tout prenne un goût particulier, exceptionnel.
Peschiamo direttamente dalla pentola,
Je goûte directement de la casserole avec une écumoire les pizzoccheri, les pommes de terre et le chou et je commence à faire des couches sur un plat ovale. J'alterne
i pizzoccheri con il formaggio.
Avec les fromages râpés.
Una dose generosa di formaggio.
Je termine le plat avec une bonne dose des deux fromages râpés.
E poi andiamo a fare l'ultima operazione che è la
più importante. Je couvre tout le plat avec le beurre fondu, la sauge et l'ail. Donc tous les ingrédients sont noyés en fait dans une sauce beurrée très parfumée.
L'ultima mescolata perché il formaggio si sciolga.
On mélange encore un peu de façon à bien faire fondre le fromage.
I nostri pizzoccheri sono pronti. Buon appetito.
Alors, buon appetito. Honnêtement, quand on a vu arriver le plat avec 3 tonnes de fromage de montagne et le beurre de sauge, on s'est dit « Ouh là là, mais comment va se passer la digestion ?» Parce que c'était en plus un soir. Et étonnamment, ces pizzoccheri sont passés crème.
C'est vrai, mais parce qu'il y avait beaucoup de sauge. La sauge, elle a quand même des pouvoirs médicinaux, donc digestifs. Et donc, c'est un peu le bon sens paysan de mettre la sauge là où il y a des ingrédients assez gras.
Ah donc, le beurre s'accouple avec la sauge dans pas mal de recettes, puisqu'on l'a vu avec les poissons du lac, avec la polenta, les pizzoccheri. C'est pas uniquement pour des raisons gustatives, c'est un mariage d'amour.
C'est vrai que
même avec des gnocchis, enfin, je veux dire, burro et salvia, c'est une religion.
Et ce goût légèrement amer et cancré de la sauge contribue aussi à rendre plus digeste.
Vous nous redonnez le nom de cette recette, c'est les pizzoccheri.
De la Valtellina. Et quand on dit pizzocchero en Valtellina, on entend et la pâte et cette préparation
c'est
avec
ça.
Les pommes de terre et le chou et le fromage, le beurre.
Et cette recette, on l'a codifiée et elle est réalisable à la maison de A à Z.
C'est très simple.
De façon assez simple.
C'est un plat Très complet.
Ah oui.
Délicieux.
Roboratif.
500 grammes de beurre. Hein.
Oui, au moins 50 grammes de beurre par personne.
Oui, mais il ne faut pas trop le dire. En effet, non. Parce que personne ne va la faire, alors qu'en fait, elle est absolument délicieuse à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster les lacs italiens, grande région de vin. C'est ce qu'on va voir avec l'ami Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alors, nous allons parler d'un vin qui provient de l'est du lac de Garde. C'est une appellation qui s'appelle Valpolicella. Alors, on a tous été victimes, ici, autour de ce plateau, et en France d'une façon plus générale, d'un très mauvais Valpolicella, servi bien glacé pour en masquer les défauts, dans une pizzeria, elle aussi pas très bonne, dans laquelle on avait échoué, en désespoir de cause, ne trouvant rien d'autre pour se nourrir.
Alors, ça sent le vécu, et je vois ce que vous voulez dire, Jérôme.
Exactement. Alors, il s'agit ici de remettre l'église au milieu du village, et le Valpolicella à sa bonne place, à savoir un très joli vin, issu d'une appellation qui fait 7300 hectares. Mmh. Vérone se situe à l'est du bas du lac de Garde. Et l'appellation Valpolicella, elle enrobe le sud de Vérone et elle remonte comme ça sur le flanc est du lac de Garde. On y trouve trois cépages principaux, Corvina, Rondinella et Molinara, et ça donne des vins rouges. Alors c'est là où c'est très intéressant en fait, Valpolicella, c'est que c'est pas seulement ce vin parfois un peu léger, qui est plus ou moins bon, c'est aussi en fait deux autres productions qui sont particulièrement intéressantes et qu'on rencontre qu'en Italie, c'est le Ripasso et l'Amarone. Alors, je vais vous parler de l'Amarone rapidement. L'Amarone, c'est le grand vin de Valpolicella. Le principe est très simple. On récolte des raisins très mûrs et on va les laisser sécher. On va les faire passerier, comme on fait passerier, par exemple, le vin de paille dans le Jura. On va faire sécher ces grains de raisins rouges. Puis ensuite, on va les presser. On va les faire macérer et la fermentation va aller jusqu'à son terme. Donc, on aura un jus qui est très concentré en sucre. Donc, ça va faire des vins qui sont assez généreux en alcool, qui sont puissants, très complexes, assez extraordinaires, il faut bien l'avouer. Et c'est très typique de la Valpolicella. Et puis après, il y a le Ripasso. Le Ripasso, en fait, repasse. Eh bien, on va prendre le marc de l'Amarone et on va le mettre dans du Valpolicella. Et il va se passer une seconde fermentation, c'est-à-dire que le vin est fini, donc il y a de l'alcool. L'alcool, c'est un solvant, donc ça va extraire des arômes de fruits, ça va extraire de la couleur, ça va extraire des tanins. Et puis, il reste un petit peu de sucre, donc il y a une fermentation qui va revenir, qui va redémarrer, et ça va donner ce vin qui est entre le Valpolicella Classico et l'Amarone de la Valpolicella. Il n'a pas tout à fait la puissance d'un Amarone, mais il est nettement plus généreux et ample qu'un Valpolicella Classico. Et donc, ça fait trois vins qui sont très différents les uns des autres, qui ont pour communauté le lieu dont ils viennent. Et ce que nous sommes en train de déguster, c'est la première cuvée d'un domaine qui s'appelle Monte d'Alora. Et c'est Alessandra et Carlo Venturini qui ont ce domaine. Et ils produisent ce vin. Alors là, pour le coup, c'est la cuvée Sassetti. C'est bien prononcé.
Sassetti.
C'est la version la plus légère des Valpolicella du domaine.
C'est vrai que c'est léger, on le voit à l'arôme hein, d'ailleurs, qui est assez clair.
C'est assez aérien, c'est vraiment l'objectif que poursuit ce vigneron. Je vous en parle parce que c'est un vin qui vaut une vingtaine d'euros.
C'est bon,
je vous ai mis sur la page de l'émission l'ensemble des vins du domaine que j'ai pu déguster il y a un mois, et vous verrez toutes les notes de dégustation, vous verrez, il y a des vins qui sont plus puissants, qui sont aussi un petit peu plus chers, vous avez les coordonnées de l'importateur français, vous avez tout pour vous régaler d'un très beau Valpolicella qui vous fera à nouveau aimer ce vin qui a parfois été un petit peu malmené, disons, par une production médiocre.
Avec des tanins d'une belle tendreté.
Oui,
de c'est la souple. Matière.
Et aussi, de la matière hein, aussi, la hein, matière, Alessandra. C'est un vin que vous connaissez bien.
Je connais très bien ce producteur. Donc,
vous l'avez même vendu dans une autre vie. Hein.
Je l'ai vendu, oui.
À l'époque où vous aviez l'épicerie.
Ce 2024 que je n'avais pas encore dégusté, il est vraiment extraordinaire.
Alessandra, à quelle spécialité locale vous pensez spontanément pour un accord avec ce vin ?
Alors ça va très bien avec des sardines saor, hein, par exemple, si on va du côté de Vénétie.
Plutôt Vénétie, ouais.
Plutôt Vénétie, parce qu'il est un peu à cheval entre les deux. C'est le vin qu'on peut mettre sur du poisson facilement.
Tout à fait d'accord, c'est vraiment poisson spontanément, ouais. Je vous rappelle juste le nom. Valpolicella Classico Sassetti 2024, domaine Monte d'Alora. Vous pouvez demander à Planète Vin, qui est l'importateur français, qui est un très bon importateur de vin italien pointu. Benoît Lafosse, qui a fondé cette société. Très, 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 très belle sélection de vin italien.
Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Gagnez. Dans un instant, la cuisine italienne, selon François Simon. On va également goûter un fromage de montagne au lait de vache et de chèvre mélangé. Oulala, attention, un super gâteau d'automne parfait et facile à préparer, dont le prénom est...
Miasha.
Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Volare. From the maddening crowd, we can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find.
Quel titre italien réinterprété par qui?
Ella Fitzgerald.
Qui réinterprétait
Volare.
Oh. Très très belle chanson. La Cucina del Lago di Como, la cuisine du lac de Como avec Alessandra Pierini et Stéphane Solier.
On va déguster.
The menu, please.
François-Régis Gaudry sur France Inter.
Notre voyage, justement, a été marqué par une ascension dans les montagnes du côté du Val Girola, à la découverte d'un fromage, alors je dois le dire, que je connaissais très mal, il est très connu localement, mais c'est vraiment un fromage étonnant, qui répond au nom de...
Storico Ribelle.
Voilà, Storico Ribelle, et ce fromage, comme son nom l'indique, c'est quand même l'histoire d'une rébellion, hein.
Tout à fait. C'était un fromage qui existait avec le nom de Bito Storico, en référence à la rivière Bito qui traverse dans la vallée qui a donné le nom à ce fromage.
B.I. de Théo, hein, Bito.
B.I. de Théo. Et quand le Bito est rentré donc dans l'AOP, les producteurs de montagne, vu que le cahier des charges commençait à s'élargir un petit peu trop,
et à déraper légèrement,
ils ont dit, là, il y a un problème, on va sortir de l'AOP et on va finalement s'appeler maintenant Storico Ribelle, qui veut dire historique, donc comme le fromage traditionnel, et rebelle, rebelle de l'AOP.
Voilà, donc c'est le symbole d'un combat pour la sauvegarde d'une culture montagnarde vivante qu'on est allé côtoyer de près. Alors pour comprendre ce fromage, le Storico Ribelle, faut monter en altitude. On a dû enfiler nos chaussures de randonnée et on a pris de la hauteur.
Sono Carlo Mazzoleni.
Je suis Carlo Mazzoleni et je suis président du consortium pour le fromage Storico Ribelle et de la société qui le commercialise.
In questo momento siamo in Val Bomino e stiamo andando verso uno dei nostri alpeggi, dei nostri soci.
Là, nous sommes actuellement dans le Val Bomino et nous allons nous diriger vers les alpages, vers une baïta qui fabrique ce fromage.
Alors on s'est avalé quand même pas mal de kilomètres, hein. On a marché pendant plusieurs heures, du dénivelé aussi. On a cueilli au passage, souvenez-vous, quelques cèpes tout dodus et même des petits bouchons. Est-ce que vous vous souvenez, Stéphane et Alessandra, comment on les a cuisinés ces cèpes?
Et à l'arrivée de la randonnée, à la redescente, hein, juste coupé comme ça frais et déposé sur de la brezaola.
Avec le fromage.
Avec le fromage qui nous occupe, hein, le Storico Ribelle. Brezaola, c'est une charcuterie très connue qui est du coin.
C'est la charcuterie, la brezaola della Valtellina, c'est une IGP. Et c'est un morceau très maigre de bœuf.
Et oui.
Hein, de bœuf séché, qui a mariné d'abord avec des épices et des aromates, et ensuite laissé sécher. On mange en tranches très très fines, comme une charcuterie.
Ou en manger avec notre raclette, par exemple.
Oui.
Et si je vous dis que la brezaola de la Valtellina, c'est la cousine italienne de la viande des grisons suisses et de la cecina espagnole. Vous
tout
m'en voulez
fait.
Ou pas?
C'est absolument.
Ah, je pensais que vous alliez me dire
famille.
Que c'était bien meilleur.
La bresaola, elle est un peu plus souple et moins salée, en fait, de
ces. C'est forcément
chars.
Meilleur.
C'est plus subtil.
Donc, à vous de voir.
La bresaola.
C'est plus élégant, bien
allez,
sûr.
On continue notre randonnée montagnarde. On arrive dans les alpages à plus de 1700 mètres d'altitude avec, alors là, un panorama à couper le souffle sur les montagnes avec la forêt et les Alpes littéralement incendiées par les lumières d'automne.
Eccoci, vedi, lì sono le mucche, siamo arrivati dove c'è l'alpeggio di Dosso Cavallo.
Et voilà, nous sommes arrivés à l'alpage, alors on est vraiment devant le troupeau de vaches et un peu plus haut, si vous regardez, vous avez aussi le petit troupeau de chèvres autochtones, elles ne se mélangent pas.
Durante l'anno loro vanno sempre più in alto, arrivano più di 2000 metri quando arrivano
là. Bien sûr, il faut imaginer que pendant la haute saison, on monte jusqu'à 2000 mètres.
Eccoci, visto, siamo arrivati alla casera di Dosso Cavallo e ci sono Antonio che è il capo pastore.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
E l'Olimpio, suo fratello, che è il casaro.
Ciao. E voilà les deux frères, donc Antonio che è il berger e Olimpio che è il fromager.
Eligio è arrivato.
Et le troisième frère arrive, Eligio, c'est le chevrier.
Di solito la cima, l'erba più buona.
Habituellement, c'est au sommet absolu, c'est là où l'herbe est la meilleure.
Et le goût du fromage est vraiment différent, on peut le reconnaître à l'aveugle.
Proprio anche dal gusto, il sapore.
Oui, le goût, la saveur est vraiment caractéristique.
Et qui di fianco c'è la casera d'alpeggio che è dove tengono le prime settimane.
Voilà, là nous arrivons, on garde les fromages à peine fabriqués.
Ah là là, les belles tomes.
A Gerola, abbiamo questa
en bas, à Gerola, on a une structure pour vraiment sélectionner les meilleurs. Et donc, on en a de 3, 4, 5 ans. Et même les meilleurs, meilleurs, meilleurs. Donc, c'est plus rare si les fromagers travaillent bien. 10 ans.
10 ans d'affinage.
Notre rôle avec Slow Food, c'est vraiment de sauver ce fromage qui est fabriqué de manière naturelle et traditionnelle et qui était en voie d'extinction.
Il reste combien de producteurs de ce fromage?
Quest'anno se va tutto bene ritiriamo il formaggio.
Si tout va bien, normalement 12 alpages et 10 structures fromagères.
Le Storico Ribelle est vraiment un emblème magistral oui. de cet agropastoralisme italien hein, dans l'écosystème alpin. Oui. C'est vraiment un fromage prodigieux, avec un mélange de lait, hein, on le redit. Il y a de la vache.
Il y a de la vache, mais de la chèvre.
Et de la chèvre aussi.
Locale, qui est une race, s'appelle la Capra Orobica, mm-hmm. qui prend le nom des Alpes Orobi, qui est vraiment la chèvre de la région.
On peut trouver ce fromage en France, chez nos fromagers, Alessandra?
Il y a quelques petits points de vente, il faut le chercher, c'est pas évident.
Et vous nous avez rapporté le Storico Ribelle est en petits morceaux dans vos assiettes, chers amis, en deux versions. Jérôme Gagnès, s'il vous plaît. Quelle est la différence visuellement et gustativement entre ces deux Storico Ribelle?
Alors, il y a un morceau qui est beaucoup plus moelleux.
Oui.
Le gras ressort un peu, très gourmand. Moi, j'aime beaucoup ça. Cet assemblage vache-chèvre est d'une grande subtilité. Mmh. Puis, un autre morceau qui, comme ça, visuellement, d'un peu loin, ressemblerait un peu à un vieux parmesan, par exemple. Mmh. Donc là, de toute évidence, l'affinage est beaucoup plus long. On peut facilement être à 48 mois, donc 4 ans, 5 ans, parce que c'est ce qu'on voit quand on a des très vieux comtés. Hein.
Vous aimez, François, ces deux
fromages ? Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien quand cette idée de temporalité, les 48 mois, et on sent le cheminement un peu des goûts.
Oui.
Ils se sont affinés, ils ont dû se perdre un moment. Lentement. Et puis là, ils nous arrivent, pof ! Très agréable.
Mais ouais. C'est vrai qu'il y a à la fois de la puissance et de la douceur. Ouais. L'affinage a souvent tendance à arrondir les fromages.
Même le vieux, il est pas. Ça peut être piquant parfois. Il peut y avoir des vieux fromages qui perdent un peu de subtilité. Là, c'est pas le cas, je trouve.
Vous dites 5 ans pour ce Storico Ribelle.
Oui, il y a des comtés 48 mois qui ressemblent un peu à ça.
Vous savez que 48 mois, ça fait pas 5 ans.
Non, si ça fait 4 ans.
Oui, d'accord. Alors, c'était quel âge?
En fait, vous avez dégusté un 10 ans d'âge.
10 ans d'âge, ce fromage a été façonné
il y a 10 ans.
C'est quand même troublant, ans. Non?
Il est magnifique, ouais, il est encore tendre, il a toute sa puissance, et il n'a pas du tout dégénéré, même dans la consistance, et on retrouve ce goût très long et persistant.
Stéphane Solier.
Le mordant, le piquant, on a le début, puis ça s'arrête.
Oui.
Il n'ose pas agresser.
Nous agresser.
Pas du tout.
Il est tout en douceur, c'est beaucoup de tendresse et de tendreté, les deux à la fois, parce que la texture n'est pas cassante non plus. Elle reste très moelleuse, c'est étonnant. 10 ans pour ce fromage Storico Ribelle. François Simon ramène son dingue dans l'émission.
On va déguster sur France Inter.
Cher François, l'Italie, me semble-t-il, vous cause. Mais j'aimerais bien savoir dans quel sens. Moi, je vous vois bien, je vous imagine bien comme ça dans les palais vénitiens, avec parfums lourds et plats de cour.
Et pourquoi pas un cubitanaire de Amarone, les lasagnes à la bolognaise. J'aime bien vos clichés, cher François Régis, dans lesquels vous semblez m'enfermer. Il m'enchante tant cela crée en vous des fantasmes qui n'engagent que vous.
Allons, non, je fantasme pas trop sur les palais vénitiens, mais quoique, d'ailleurs.
Bon, allez. Car au risque de vous déplaire, cher François Régis, ce que m'a appris la cuisine italienne, c'est surtout sa dimension de cucina povera. Les Italiens, et c'est pour cela qu'ils triomphent partout dans le monde, savent parler simplement. Alors que nous jouons au clair de la lune en orchestre symphonique, eux le font au zufolo, une petite flûte pastorale. Et tout de suite, nous pigeons la volupté de la simplicité. Mieux, on comprend ce qui se dit. Que signifie cucina povera? C'est un peu tout bête, ce sont des ingrédients locaux, bon marché, sans gaspillage, respectant la saisonnalité. Et avec ça, on en fait des ribollitas, des soupes, des pâtes à foison, des panzanella, ces salades de pain rassis, de la polenta, des frittata. C'est bien sûr une tradition culinaire paysanne depuis le Moyen-Âge et même l'Antiquité. Mais dites-moi, François Régis, simple, local, sans gaspillage, de la créativité, pour transformer peu en beaucoup, ça ne vous rappelle rien.
Mais oui. Aidez-moi, François.
Bien sûr, souvenez-vous, c'est ce fameux concept de la naturalité que nous avons créé en 2014 sous l'égide d'Alain Ducasse. Ou si vous préférez, on s'est réapproprié l'invention de l'eau chaude. Mais bon... Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le message adressé par cette cuisine pauvre. Paradoxalement, toute l'aristocratie de la cuisine italienne tient dans cette approche lumineuse de la cuisine. Souvent, dans notre bon pays, on a le bonheur complexe. On aime sophistiquer les choses, comme l'a déjà développé Baudelaire dans son éloge du maquillage. Le maquillage serait donc un acte profondément artistique et civilisateur. Ou si vous préférez, en cuisine... Grâce à la dimension moralisatrice du travail, on transforme un poisson en chef-d'œuvre de feuilletage pour mieux en valoriser la nature de ce brave poisson qui, au passage, prend à tous les coups un bon coup de polochon sur la tête. C'est le même rapport du vêtement avec la nudité, de l'apparition indispensable d'un nuage pour savourer un ciel bleu.
Vous n'auriez pas, François, un petit souvenir perso à nous livrer ?
Bien sûr, mais... Même si cela me fend un peu le cœur de vous le raconter, il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais au plus profond des désarrois, ne mangeant plus, je suis passé plus au sud des lacs, sur la Toscane littorale, à San Vincenzo, saluer Fulvio Pierangelini dans son restaurant Gambero Rosso. Me voyant si triste, il m'a demandé juste de m'asseoir au moins quelques instants. Je lui ai dit alors que je n'avais pas faim. Alors, il est parti quand même en cuisine et m'a préparé un ravioli à la tomate. « Tiens, m'a-t-il dit de sa belle voix chaleureuse, cela va aller mieux. » Et la vie m'est revenue. Alors, la morale de l'histoire, bien sûr, il est important d'avoir des bons amis. Et ensuite, lorsqu'on s'embarque dans un plat, que ce soit à la maison ou dans un restaurant, on a toujours un peu peur de ne pas en faire assez. En fait, il faut avoir confiance en soi, en sa bonté, en ses produits, bien sûr, en ses cuissons. On peut se poudrer du charme, bien sûr, mais ne pas botoxer les plats. C'est sans doute ce bonheur pastoral que nous apprend la cucina povera.
Merci beaucoup, François Simon. Ce bel hommage à la cucina povera, Alessandra.
Meraviglioso, grazie, François.
Prego.
Là, vous avez l'air carrément super ému, Alessandra.
Oui, non, mais j'adore quand on parle de la cuisine italienne dans ces mots. C'est super.
La cucina povera, elle concerne toutes les parties de l'Italie, mais quand on parle évidemment de la polenta, taragna par exemple, maïs et sarrasin, on est en plein dans le mille de cette cuisine pauvre.
Ah, tout à fait. La cucina povera va aussi jusqu'au dessert. La preuve dans ce magnifique gâteau qui est la meace ou miace, qu'on peut retrouver un petit peu partout en Italie. Mais nous avons goûté vraiment la version typique qu'on fait autour de Mandello dell'Ario et donc dans ce quartier qui est Maggiana, all'Osteria Sali e Tabacchi.
Ciao, sono Federica Lafranconi. Allora, la meascia, sto sbucciando la mela e la pera.
Je suis en train d'éplucher la pomme et la poire et je vais la découper en petits morceaux, des tranches pas trop fines pour qu'on puisse les retrouver dans le gâteau.
Allora, possiamo proseguire inserendo all'interno di una ciotola tutti
dans un récipient, je mets d'abord tous les ingrédients liquides.
L'olio d'olive.
D'abord de l'huile d'olive.
Il latte.
Ensuite du lait.
Abbiamo un uovo.
Et un œuf entier.
Lo zucchero.
J'ajoute du sucre.
E mischiamo.
Et je mélange.
Possiamo proseguire aggiungendo la farina,
la farina di maïs.
E aggiungiamo anche la farina zero.
Et on ajoute un petit peu de farine type T55.
E ora aggiungiamo un pizzico di sale.
On ajoute une petite pincée de sel.
Del lievito per dolci.
Un petit peu de levure à gâteau.
E adesso è il momento della frutta. Quindi abbiamo dei fichi secchi.
Donc on ajoute des figues sèches découpées un petit peu à l'avance, un petit morceau.
Delle noci anch'esse tagliate a pezzetti.
Des cerneaux de noix concassés.
E adesso aggiungiamo anche dell'uvetta che ho precedentemente ammollato.
Là on ajoute les raisins secs qui ont été d'abord réhydratés avec de l'eau et de la grappa. Et ensuite, une fois égouttés, je les ai passés dans la farine de façon à enlever l'humidité pour qu'une fois dans le gâteau ne tombe pas au fond.
Perfetto, adesso aggiungo anche un po' di fiori di sambuco essiccati.
J'ajoute ici des fleurs de sureau séchées. Ça, c'est la touche un petit peu familiale. Pas tout le monde les utilise, mais pour nous, c'est caractéristique pour cette recette.
Et aggiungiamo le pere e le mele.
Ensuite, j'ajoute les morceaux de pommes de poire et je mélange tout pour bien amalgamer. Maintenant, je prends un plat pour le four
et la ungiamo bene con dell'olio d'oliva.
Et je le graisse avec de l'huile d'olive. Je peux verser donc l'appareil qui va rester quand même assez liquide.
L'ultimo passaggio è quello di mescolare un po' di noci.
La dernière touche, c'est donc de mélanger dans un bol un petit peu de farine de maïs, une pincée de sucre et des cerneaux de noix grossièrement concassés qu'on va déposer sur la surface du gâteau pour faire une très jolie croûte à la cuisson.
Un filo d'olio,
un filet d'huile d'olive à la surface.
Et siamo pronti per infornare la meascia a 170 gradi per 50 minuti.
Et on est prêt pour mettre au four la meascia à 160 degrés pendant 50 minutes.
Et vous nous l'avez cuisiné, Alessandra Pierini, selon la recette de Federica. Ça va, François Simon?
Ah, c'est un vrai délice.
C'est assez cucina povera pour
moi. Mais en même temps, quand je vous vois, je me dis, en fait, il y a une interaction, une interférence entre le gâteau et le plaisir de le manger.
Oui, mais
ah oui,
ça veut dire donc
c'est ça qui est important.
La cucina povera, ouais, donne le sourire.
Voilà.
Et ben ça,
la joie.
On va vous laisser. La meascia. Pour moi, c'est comme un pudding anglais, le charme italien en plus.
Ah, elle est moins dense que le pudding, quand
oui,
même.
C'est
hein.
C'est, ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est tout italien. Remarquable. Bravo pour cette recette qu'on peut retrouver comme toutes les autres sur franceinter.fr à la page On va déguster. Allez, on se quitte. Stéphane Solier, vous recommandez un livre?
Oui, une Bible. Hein. Il est sorti l'année dernière. Hein. C'est le livre La cuisine des lacs italiens de Catherine Roig avec des photographies magnifiques d'Emanuela Cino. Couleur pastel, flou très soigné qui crée une ambiance vraiment rétro telle qu'on l'a retrouvée quand on est parti en voyage là-bas. Ce livre est passionnant parce qu'il propose à la fois la découverte de lieux avec des fameuses façades, des portraits de commerçants, des focus sur des produits et surtout des recettes.
La cuisine des lacs italiens de Catherine Roig chez Hachette Cuisine, c'est ça hein?
Exactement,
Hachette Cuisine. Super bouquin que j'ai dans ma bibliothèque. Merci à tous. Amis auditeurs et auditrices, On va déguster va dresser le couvert à Poitiers. Vous en serez, Jérôme Gagnel?
Oui, tout à
le
fait.
Le vendredi 12 décembre, en public, à 11h, si vous voulez assister à l'émission, c'est gratuit évidemment, mais dans la limite des places disponibles, il faut s'inscrire sur la billetterie du théâtre TAP. Scène nationale du Grand Poitiers, le lien est sur notre page internet. Ouverture de la billetterie le 26 novembre à 10h pour notre enregistrement le 12 décembre à 11h. La semaine prochaine, attention, les masterclass dont va déguster épisode 9, la grande signature qui passe à la casserole, c'est Alexandre Gauthier, le chef de la grenouillère à la Madeleine sous Montreuil, dans le Pas-de-Calais, l'un des cuisiniers, on peut le dire, les plus doués et les plus inspirés de sa génération. À dimanche prochain, si vous avez encore faim,